cet espoir même d'avoir des terrains de recherche vraiment in situ dans lesquels on pourrait, sur un établissement donné, je ne sais pas, peut-être demain une région, enfin un endroit où on aurait pas mal de formations à la CNV, pouvoir mesurer l'impact de cette formation. Et vous nous aviez expliqué, l'équipe, que pour mesurer ça, c'est intéressant de le faire de façon indirecte, non pas mesurer les évolutions des formateurs eux-mêmes ou des gens formés eux-mêmes, mais par exemple, il y avait eu un début de projet avec Catherine Schmider, qui je crois est là ce matin, j'ai vu son nom tout à l'heure. Il y avait eu comme ça des premiers pas posés où l'idée était par exemple, à l'échelle d'un établissement scolaire, d'aller voir les effets sur les enfants. De la formation des adultes et d'interviewer plutôt du côté des enfants. Donc, en ayant ça en tête et l'envie de trouver un tel terrain, quand j'ai rencontré donc l'organisation que représente Christelle, que je remercie du fond du cœur d'être avec nous ce matin, donc qui s'appelle La Bourguette, qui est un établissement d'accueil de personnes porteuses d'autisme, et ben on a échangé là-dessus et on s'est pour l'instant, l'idée est de potentiellement faire une telle recherche sur un établissement pilote. Et puis, en commençant à rentrer un tout petit peu dans le concret, une fois qu'on s'est dit en principe que c'était pas mal, on a échangé donc de façon indirecte pour l'instant avec aussi l'équipe, avec François et Yves, pour voir un peu comment est-ce que ça pourrait être mis en place très concrètement. Et en fait, ça soulève foule de questions. Qui sont là et qui ont notamment été soulevés par toi, Christelle, donc c'est trop bien que tu sois là. Donc, foule de questions. La première, donc je vous les donne comme ça. Et puis, Christelle, je veux bien, si tu vois quoi que ce soit à ajouter, que tu amènes ton propos. Donc, la première question qui a été posée, là en l'occurrence par François, c'était quelle est la question exacte à laquelle on veut répondre? Est-ce qu'on essaye de mesurer s'il y a un avant-après, en quelque sorte, ça a fait quoi? Ça a un impact sur la qualité relationnelle? Est-ce que ça a augmenté la coopération? Est-ce que ça a augmenté la bientraitance dans l'organisation? Et en fait, déjà, la façon dont on va se donner un objectif comment dire, définir ce que l'on veut mesurer, pourrait déjà faire débat. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas vraiment encore reparlé avec la Bourguette. Je ne sais pas, Christelle, comment t'es par rapport à ça, sur un peu ce qu'on aimerait mesurer. Est-ce que tu as un point de vue là chaud, puisqu'on est en mode cobaye?
C'est ça, en mode cobaye, ben, je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant la question de la qualité des relations et de la coopération, sachant que les propos étaient très intéressants sur l'autisme. La question du défaut de la théorie de l'esprit fait que effectivement dans la coopération et dans la qualité des relations, c'est la difficulté majeure. Donc effectivement, si on doit les mesurer auprès des personnes accompagnées, puisque c'était quand on en avait évoqué, c'était ça, la difficulté ou le biais qu'on va avoir d'emblée, c'est qu'en fait, les personnes qu'on accompagne ont, par définition, sont atteintes de TSA et donc des interactions sociales perturbées et une théorie de l'esprit qui est pas adéquate. Donc là, déjà, je me dis peut-être qu'on a un biais majeur à essayer d'aller mesurer auprès des personnes accompagnées. Le retentissement.
Oui. Donc il y a ça, c'était une autre grosse question, hein, c'était la mécanique pour justement mesurer l'idée d'aller mesurer sur les bénéficiaires. Bon bah là, dans ce cas-là, c'est assez compliqué. Alors après, dans un deuxième temps, on s'était dit pourquoi pas les familles? Hein, mais ce que tu me disais, c'est que les familles, bah, souvent quand il y a du TSA, bah, il y a du TSA un peu à tous les étages dans les générations. Donc la question, elle se repose aussi à cet endroit. Donc ça, c'était la grosse question aussi, c'est quels publics sont à étudier pour pouvoir mesurer quelque chose qui soit assez objectif, mais qui en même temps, donc soit pas directement les personnes formées, mais en même temps que ce soit faisable, avec les biais là des personnes porteuses d'autisme ou des enfants dans l'autre cas. Une autre grande question qui s'est posée, c'est celle des indicateurs. Ça pourrait être intéressant de s'appuyer sur les indicateurs existants et puis en même temps de voir quels indicateurs on souhaitait créer. Et du coup, là aussi, pour l'instant, on est dans le tâtonnement et voilà, et on attend un peu d'avoir aussi le point de vue de l'équipe de recherche. mais de se dire dans les indicateurs que vous avez déjà, hein, il y avait l'idée de ce climat social, c'est ça, ça je me souviens plus exactement comment vous l'avez défini parce que je crois que c'est nouveau.
Oui, en fait, au sein de l'association, on n'a pas fait trop de démarches de mesure du climat social, d'un baromètre social. Et l'idée,
Baromètre, pardon.
c'était de se dire que, puisque mesurer l'impact auprès des personnes accompagnées ou de leur famille va être compliqué, est-ce qu'on ne se centrerait pas sur, voilà, on forme, on essaye de mesurer les impacts de former l'encadrement et les fonctions support à la CNV par rapport aux autres salariés de l'accompagnement. Et donc, si c'était en ce sens-là, le fait d'avoir un baromètre social avec un état zéro où on pourrait avoir des questions qui relèveraient des questions justement de cette mesure, in fine, on pourrait l'adapter puisqu'on n'en a, on n'a pas d'outil de base, donc on peut partir sur l'outil qu'on souhaite.
C'est ça, donc ça c'est l'idée que tu as apportée dans la réunion de défrichage, la première qu'on a faite, que moi j'ai trouvé super, hein. C'est vraiment de se dire bah, finalement c'est quoi le noyau dur et c'est quoi les bénéficiaires. Bah, le noyau dur ça pourrait être les internes et quelque part tous les partenaires proches de la bourguette pourraient être considérés comme les bénéficiaires, non pas les bénéficiaires in fine que sont les personnes porteuses d'autisme, mais tout la coopération qui est possible autour de ce public-là. Avec les partenaires. Et là, du coup, on retrouve peut-être quelque chose de plus facile à mettre en place et en plus qui peut avoir ce suivi du baromètre social dans le temps. Donc, ça, c'était une question. Et puis, bon, ça va, bon, je speed, il nous reste 12 minutes. Et on se disait qu'il y avait aussi, donc, on pouvait peut-être, donc, on en a débattu entre nous, s'appuyer sur d'autres choses existantes, comme par exemple le taux d'absentéisme ou le turnover dans les équipes. Avec plein de pincettes, parce qu'on se disait que d'un côté, c'était intéressant de mesurer ce turnover et ce qui se passe dans les équipes, avant, après, peut-être la formation à la CNV, et en termes de qualité relationnelle, et en même temps, avec la conscience que bah, parfois, il y a des bénéficiaires qui vont exploser, il va y avoir des impacts, qu'il y a bien d'autres facteurs que celui-ci qui vont faire que dans certaines équipes, il y a plus de turnover, il y a des fois des publics qui sont plus difficiles ou des familles qui sont plus difficiles à l'échelle d'un établissement. Donc là, on se demandait un peu, nous, et alors là, voilà, ce serait peut-être à l'équipe d'Yves, à toi François, d'apporter un bout, mais de se dire comment est-ce qu'on peut mesurer ça, toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est là où c'est super d'avoir une équipe qui saurait accompagner ça, parce que c'est un peu pas simple de discerner les choses. Voilà, et puis ensuite, il y avait trois questions très très concrètes qui se sont posées aussi pour mener un tel projet. Donc la question tout simplement des financements, parce que bah, ça veut dire financer des formations à la CNV, potentiellement de l'accompagnement de certaines personnes qui seraient porteuses, ambassadeurs de la CNV au sein de la structure, des sortes d'analyses de pratique avec la CNV. Enfin vraiment, si on se dit qu'on apporte la CNV dans une structure, ça peut être de multifaçons. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Et aussi, tout ça a un coût. Donc là, on se demandait s'il y avait la possibilité de faire appel à certains modes de financement, ARS, etc. Et si du côté bah, de l'équipe, vous aviez de l'habitude, de la dextérité pour trouver ce mode de financement. Il y avait aussi, donc ça c'est pour l'instant une question qui est restée en l'air, hein. Et puis ensuite, il y avait deux autres questions qui sont les questions. Aussi d'embarquer les équipes, comment est-ce qu'on embarque par exemple l'équipe d'un établissement dans ce projet sans coller un billet direct, mais parce qu'il faut quand même de l'enthousiasme et de l'appétence de l'établissement pour mener ce truc-là, parce qu'ils vont répondre à des questionnaires, ils vont suivre des formations, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'envie pour pas que ça soit imposé, et en même temps, bah, si je leur explique avec tout mon enthousiasme comment la CNV c'est trop bien et je sais que je crois que tu partages cet enthousiasme, Christelle, et qu'on est deux à les embarquer, bon bah peut-être qu'on va surtout mesurer l'effet de notre enthousiasme, hein, c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et la dernière question que moi j'ai vue et qui me semble importante, et puis après peut-être François, je te laisse réagir aux différents points, je sais pas, c'est la question du rythme, c'est-à-dire que du rythme dans la faisabilité. C'est-à-dire que dans une organisation comme la Bourguette, moi c'est vrai que j'ai envie de donner une date de prochain rendez-vous dans moins d'un mois, tac tac, qu'on mette en place le processus. Enfin, on est dans un rythme projet classique qui s'étale maximum, on va dire, sur 6 mois. Et là, François, peut-être je me tourne vers toi parce que j'ai l'impression que peut-être c'est pas forcément le rythme de la recherche, mais ça, j'y connais rien. Et ça, je sais pas aussi comment est-ce qu'on fait cette interface entre les rythmes pour pas démotiver d'un côté, perdre le fil, voilà, pour rester en mode projet, quoi, avec le plaisir de célébrer les étapes passées. Voilà un peu. Je sais pas si tu vois quelque chose à ajouter, Christelle, par rapport à notre projet.
Non.
Ça va, c'est ça? François, du coup, ouais, je veux bien
Ouais.
t'interpeller maintenant sur les différents
Parfait.
points.
Eh ben, j'ai pris des notes et j'ai cinq grandes questions avec cinq petites réponses,
Trop bien.
je l'espère. Alors, je les reprends dans l'ordre pour permettre à tout le monde de suivre. La première question, c'était, en tout cas, ce que j'ai identifié, c'était est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut mesurer à chaque niveau, à la famille, au niveau des gens formés, au niveau des gens, des patients, patientes atteints de troubles du spectre autistique. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un scepticisme à pouvoir mesurer des effets chez des gens atteints de TSA. Moi, j'aurais tendance à dire, au contraire, c'est la population rêvée, puisque depuis 80, allez, 95, ça fait 30 ans que ces gens sont archi-évalués dans les domaines justement d'attribution des états mentaux. Et donc, on a énormément de données scientifiques, de tests disponibles pour aller quantifier précisément là où dans la population parente, on a des tests qui sont moins propres, je trouve, si vous voulez mon avis. Le deuxième avantage, c'est que vu que ces gens sont déficitaires de base, en tout cas ont des niveaux moins élevés que la population parente, vous avez plus de chances d'observer un effet. Vous avez plus de chances d'observer l'effet d'un régime chez quelqu'un qui est en surpoids que chez quelqu'un qui a déjà un bon IMC. Ben là, c'est pareil. Si quelqu'un a un déficit de base, vous avez plus de chances d'observer, même si c'est un petit effet, l'intervention. Ce sera sûrement plus, ça demandera plus de réflexion au début, mais c'est faisable. De toute façon, tout est faisable, hein. Je voudrais pas être juste le casse-planète ce matin. Il y a plein de choses possibles. La deuxième question, c'était la question des indicateurs que j'ai notés avec est-ce qu'on peut mesurer le turnover, le taux d'absentéisme comme des variables indirectes des effets. Et j'ai eu l'impression d'avoir un petit une crainte que ça puisse être influencé par tellement de facteurs finalement qu'à la fin on puisse pas conclure. C'est un problème qui se posera dans plein de domaines. Dès lors que vous voulez étudier quelque chose, c'est l'humain. De toute façon, tout va l'influencer. Et donc la météo du jour va l'influencer, le fait d'avoir glissé sur une plaque de verglas va l'influencer, etc., etc. Et en fait, ça pose la question, et c'est un petit peu, ça revient un petit peu sur ce qu'on posait la question il y a une seconde à propos des TSA. C'est est-ce qu'on croit, est-ce qu'on pense que la CNV peut avoir un effet là-dessus? Si on y croit, alors ça vaut le coup d'être mesuré. Si on se dit non, la CNV, c'est un petit effet de pacotille qui va nous changer de 1%, je sais pas quoi, alors on arrête. Mais nous, dans nos travaux préliminaires, par exemple, on a montré que ça jouait sur la consommation de cigarettes, sur la qualité du sommeil, sur la qualité du transit intestinal. Et donc, pourquoi pas sur le taux d'absentéisme? Moi, je suis prêt à y croire. Prêt à croire que s'il y a une meilleure ambiance au travail, une meilleure ambiance à la maison, parce que je pense que la formation CNV, on la ramène à la maison aussi. On redevient pas, comment dire, une brute en passant le seuil de la porte, je l'espère. Et donc du coup, on peut s'attendre à des effets comme ça. Je serais pas du tout choqué. C'est très ambitieux, mais pourquoi pas si on y croit. Et je rebondis tout de suite sur la quatrième question. Qui était, est-ce que ça peut pas être un effet de votre enthousiasme, un effet des attentes finalement des gens qui passent la commande? Je pense que d'avoir des variables justement indirectes comme ça, plutôt que juste des questionnaires de satisfaction, limite l'impact de vos attentes, hein, et que c'est bien d'avoir des choses indirectes où les gens vont moins sentir le risque de vos attentes ou ce qu'il faut répondre. S'ils sont pas au courant que vous mesurez l'absentéisme, bon bah au moins ils sont pas au courant. Et si vous, à la fin vous avez un effet, c'est super. Donc sachez qu'il y a plein de tests, enfin que l'effet des attentes des expérimentateurs et expérimentatrices est commun aussi à plein d'études et qu'il y a des façons pour s'en prémunir. Ça pourrait être discuté également, mais c'est bien d'en avoir conscience. Hein, le risque que ce serait qu'en n'en ayant pas conscience, bah finalement, à la fin, on mesure que nos propres attentes, et si c'est le cas, il n'y a pas besoin de faire une étude.
Bien, c'est surtout d'avoir la concordance justement entre ce qui est autodéclaré et puis les indicateurs objectifs extérieurs.
Ouais. Oui.
Cette congruence qui est informative.
C'est et là où c'est marrant. Pardon, vas-y Christelle.
C'est juste pour faire un focus sur le public qu'on accompagne, c'est des personnes qui sont pas forcément verbales non plus, hein, qui ont vraiment une intensité des troubles
D'accord.
assez importante et pour lequel le retour verbal va pas forcément être possible et donc voilà des compétences d'expression du langage ou de communication même qui peuvent être parfois très limitées. Hein. Donc c'est pour ça que pour mesurer même passer des tests habituels de les batteries qu'on a sur dans le champ de l'autisme pour certaines parties de notre public c'est pas accessible en fait. Hein. Donc c'est là où
D'accord.
ça paraît un petit peu compliqué.
Ouais. Bon, bah, enfin, ce sont des choses qui peuvent être discutées. Effectivement, il y a tellement un grand spectre que finalement, c'est difficile de se figurer tant qu'on n'est pas confronté à la population. Et je rebondis sur la remarque de Yves que je trouvais super. Effectivement, ce qui est super, c'est quand il y a une concordance entre les effets autodéclarés et les effets indirects qu'on observe. Et moi, ce qui m'amuse, je ne sais pas si c'est ce que ça révèle chez moi, mais c'est quand les gens disent oh non, ça n'a rien changé et que malgré tout, on a des effets indirects. Et alors là, c'est parfait. On est sûr que ce n'est pas un effet des attentes et on est arrivé à un effet qui nous satisfait tous et toutes. Vous posiez encore deux questions sur les financements possibles. Alors, il y a des financements et dans l'équipe organisatrice, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire pour avoir des financements, pour étudier, pour faire des études scientifiques. Mais avec une grosse limite qui est que pour faire ce type de financement, il faut apporter presque la preuve de ce qu'on va trouver par avance. Il faut qu'on ait déjà des études sous le coude qui montrent qu'il y a une efficacité avant qu'on nous livre 400 000 euros pour dire bon bah allez, vous pouvez continuer pendant 5 ans. Il faut d'abord qu'on ait montré pendant 10 ans que ça marchait. Donc il faut qu'il y ait une littérature qui est en train d'exploser là depuis quelques années en CNV, mais qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc peut-être que ça pourrait arriver. Et sinon, ce n'est pas sur des organismes de recherche, je pense, qu'aujourd'hui, on a le plus de chances de décrocher des sous pour la CNV. Peut-être sur d'autres types, comment dire, des choses de soins ou des choses au niveau des régions ou des choses comme ça, mais que je connais
Estelle
beaucoup, beaucoup
mentionnait
moins.
l'ARS pour ça, oui.
Ouais, mais moi, ça, je n'ai pas l'habitude du tout de travailler avec ces gens-là, par exemple.
Oui, on avait évoqué l'ARS, ou le CAFTA que je connaissais pas, bon, les OPCO, bien sûr, mais après, voilà, c'était un peu une question de montage aussi, quoi. Peut-être la
Ouais.
CARSAT aussi.
Quand on cible des populations de patients, il y a aussi les associations de patients parfois, qui sont liées à des fondations.
Oui. Fondation Alzheimer, pour le coup, j'ai eu l'habitude de, enfin l'habitude, j'ai eu l'occasion de travailler et de déposer des demandes de financement comme ça. Donc, ce sont des choses qui existent, des choses où on peut avoir des habitudes avec. Bon, tout est à faire encore, mais ça existe. Et enfin, la dernière question que j'avais notée, c'était quel est le rythme? Est-ce qu'on peut tout enchaîner pendant 6 mois, tout ça? Je pense que c'est possible si on a pris des mois avant pour réfléchir à tout. Et ensuite, on dit c'est parti, tout a été pensé et tout peut être fait. Par contre, espérer avoir de la réactivité au fur et à mesure, ça, ce sera impossible. Et tu commences à le voir peut-être, Émilie, quand on échange par mail, il y a une latence. En fait, vraiment, on part 2 heures donner cours, on revient, on a eu 30 mails et c'est terrible. Enfin, moi, je sais que si je me prévois pas juste des sessions juste pour évacuer la boîte mail, les demandes les passent en page 2 et j'irai jamais voir ce qui se passe en page 2 de ma boîte mail. Ça tombe dans les abysses très très vite. Donc, on peut prévoir des rendez-vous réguliers pour planifier, préparer, 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 et ensuite donner le top départ. Et là, c'est tout a été pensé pour des mois.
Est-ce que par rapport à ça, par exemple, un premier petit pas possible, comme on aime bien dire en CNV, ça pourrait être justement de faire une demande. Attends, je regarde le temps qui nous reste, hein, mais comme on est en mode cobaye, j'avance mon projet. Une demande, il nous reste 2 secondes. Ah oui, c'est pas beaucoup. Une demande de, bah, par exemple, que l'un d'entre vous dans l'équipe ait, je sais pas, pour avancer ce projet, par exemple, est-ce que ça, d'avoir du temps dédié ou quelque chose comme ça, est-ce que ça, c'est des demandes de financement, mais qui ne sont pas des demandes de financement sous, mais qui sont des demandes de financement temps qu'on peut imaginer faire? Enfin, je sais pas, comment ça peut dérouler ce genre de choses? Parce qu'à moyen égal, évidemment, vous n'allez pas pouvoir mener, si on vous ramène plein de terrain d'un coup, comment ça se passe, quoi?
Ouais, bah, je réponds vu que j'ai le micro allumé, mais peut-être que Yves ou Alexandre ou Tiffaine, vous voulez, ou Brigitte, vous voulez compléter. Moi, je dis, alors, bon, déjà, une demi-journée par semaine, ça me paraît beaucoup. mais on pourrait imaginer une heure par semaine, ne serait-ce que ça. Ça, je pense que c'est faisable dès lors qu'il y a un vrai projet en cours avec des personnes impliquées. Et je me dis, c'est à peu près le temps que je consacre, par exemple, aux thèses que j'encadre. Donc, si on avait un terrain avec une personne attitré pour longtemps, qui va faire une étude associée qu'on pourra à la fin valoriser par des publications scientifiques et où tout le monde y gagne, les gens de la structure, la science, et là, oui, ça vaut le coup. Mais il faut que ça ait l'envergure d'un projet, bah, j'allais dire d'une thèse, peut-être que c'est pas toujours une thèse, mais oui, c'est à peu près ce que je pense qu'une heure par semaine, c'est ce que j'accorde aux thésards et thésardes qui travaillent avec moi. Les étudiants que je supervise en master, c'est plutôt une heure tous les 15 jours. Et ouais, voilà, quoi, c'est. Mais s'il y a quelqu'un de dédié à ça qui fait la locomotive et les fils de conducteur, c'est faisable.
Et ça, par exemple, de faire une annonce pour avoir un thésard sur le sujet, ça pourrait se possible.
Ah oui, si on a des financements. Parce
Ah oui,
que
tous les
ces gens-là ne
financements.
travaillent pas gratuitement. Bah, sauf si vous
Bien
avez
sûr.
quelqu'un qui est passionné en CNV et qui veut faire ça sur son temps libre. Mais moi, d'expérience, je ne veux plus encadrer des thèses non financées. Je pense que c'est mettre quelqu'un dans la précarité. Donc,
Oui.
je pense qu'il vaut mieux avoir des financements associés.
Tiffaine a mis un petit, une remarque là sur le financement dans le
Non,
chat
mais
en disant
c'était sur la discussion précédente, hein, c'est plus la
la
discussion
pirate.
actuelle.
Ah, d'accord. Finance des recherches en lien avec le handicap, ça pourrait aussi quand même peut-être qu'ils peuvent financer des
Mais
thèses.
je serais ravi de participer au co-encadrement d'une thèse sur l'impact de la CNV. Ce serait formidable.
Et on peut rêver qu'un jour, il y ait une fondation pour développer la recherche en CNV avec un milliardaire qui nous, qui nous permette de financer des thèses et d'autres types de projets.
Lucie a
Bah,
une
il y a.
question.
Ouais.
Ah, pardon,
Tant mieux,
excuse-moi.
j'allais dire un truc très provoque. Vas-y.
Oui, je voulais juste intervenir, bonjour, parce que bah, pour dire que justement, moi je suis en train de construire un projet de thèse sur les apports de la CNV dans le renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire, et que je suis en lien donc avec CNVNCO et un laboratoire en sciences de l'éducation à Strasbourg. Et voilà, on devrait pouvoir décrocher notre financement, c'est en cours. Et on a déjà des terrains d'études dans le cadre d'une phase exploratoire là. Donc voilà, on croise les doigts, mais peut-être que ça va prendre forme là, ces prochains mois.
Bravo, trop bien.
Il faut souligner que Lucie a un profil très particulier quand même pour être arrivée là. Et que je sais pas, ça serait difficile de trouver d'autres. Enfin, je veux dire, c'est que c'est quand même un cas assez particulier qui t'a permis d'obtenir cette organisation-là. Mais bon,
Catherine
c'est
demande
inspirant.
le coût d'une thèse.
130 000 euros.
Ok.
Bon, je suis curieuse d'entendre pourquoi tu dis Yves que c'est un profil particulier. Enfin, ça aiguise ma curiosité.
Bon, je voulais juste te dire que par rapport aux thésards qu'on encadre habituellement, qui sont des jeunes étudiants qui sortent des études, Lucie, ben je vais te laisser peut-être dire 2 mots sur toi, mais.
Oui, c'est-à-dire que en fait, moi là, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années déjà dans une équipe de recherche INSERM en tant qu'ingénieur de recherche. Alors c'était sur une autre thématique, c'était en santé publique et sur l'épidémiologie. Mais voilà, c'est ce qui fait que j'arrive quand même avec une expérience de la recherche, même si je dois aussi m'adapter à la nouvelle thématique et aux nouveaux enjeux méthodologiques, notamment en sciences humaines et sociales. Mais voilà, j'ai une partie de bagage, en tout cas, liée à ma première expérience professionnelle.
Et l'enveloppe que vous avez donnée, c'est pour 3 ans.
Oui.
30 000, oui.